You are listening to the War on the Rocks podcast on strategy, defense, and foreign affairs. My name is Ryan Evans. I'm the editor-in-chief of War on the Rocks. In the fall, I was lucky to be in Paris for a week. And while I was there, I was privileged to meet with Gérard Billard, the editor of the French satirical magazine Charlie Hebdo. For Americans, Charlie Hebdo is most famous for being targeted by jihadist terrorists. In that attack, 12 people were killed, including many members of the magazine staff, and another 11 were wounded. Gérard was kind enough to sit down with me and chat about free speech, religion and politics, satire, to include satirizing sensitive topics, the history of the magazine, satire in the age of Donald Trump, and how the attacks changed Charlie Hebdo, or didn't. It is really one of the most interesting conversations I've had in years of doing the War on the Rocks podcast. Before we get into it, a very special thanks to Iskander Remen, my friend and one of our writers, who served as our interpreter, and Jamie McGuire, the sound engineer who worked with Iskander up at Salve Regina University. They both worked very hard on this, and we appreciate it. So it's been 2 years, 8 months since the attack on Charlie Hebdo, which already a very famous publication here in France, but made it a very famous publication all around the world. How is your publication different today than it was the day before that attack?
Déjà, on est passé de l'état d'un petit journal très français, franco-français même, qui était en difficulté financière comme beaucoup d'autres journaux, à un journal qui est devenu d'abord le centre de l'actualité, c'est-à-dire qu'on est passé de l'autre côté, non pas du miroir, mais du micro, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ça a changé beaucoup de choses, évidemment pour nous et pour le journal. On a eu conscience d'avoir non pas un message à porter, mais des valeurs à défendre, à porter. Des valeurs qui n'étaient que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant le 7 janvier, on pensait qu'elles allaient de soi. Des valeurs telles que la liberté d'expression, telles que le droit à la satire, le droit au blasphème, le droit de critiquer une religion, la laïcité, qui est quelque chose de très français, mais qui, au fond, est une valeur universelle. On pourra y revenir après, si vous voulez. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation où, outre le fait qu'on nous a considérés d'un seul coup comme des héros, ce que nous ne sommes pas, un héros est quelqu'un de volontaire, qui se jette volontairement devant les balles, on va dire. Personne n'a signé à Charlie Hebdo pour être un héros. Donc ça a changé un petit peu, d'une part, notre mode de vie, évidemment, matériellement, parce que on a pris conscience d'un danger réel, physique, matériel. C'est vrai qu'on avait déjà subi des attaques 2 ans plus tôt, en 2011. Nos locaux avaient été incendiés, mais heureusement, il n'y avait pas eu de... Ça s'était passé la nuit, il n'y avait eu aucun blessé, il n'y avait eu que des dégâts matériels. Les locaux avaient été détruits, mais il n'y avait eu que des dégâts matériels. On n'imaginait pas, évidemment, qu'une rédaction d'un journal, à plus forte raison un journal satirique, de dessinateurs. Enfin, il y a des journalistes aussi, il y a du texte dans Charlie Hebdo, il y a des bons textes, mais c'est d'abord dans l'esprit de tous un journal de dessinateurs. On ne pensait pas qu'il serait attaqué un jour à l'arme de guerre. On était en 2015 en France, dans un pays démocratique, au cœur de l'Europe. Un journal, pour nous, un journal n'était pas une cible. Et à plus forte raison, une cible de marmée. Je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle il y a eu ce traumatisme énorme dans la société française, et la raison pour laquelle il y a tant de monde qui est descendu dans les rues le 11 janvier. C'est que d'un seul coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, d'une certaine manière, on le savait ce qui se passait, puisqu'on en parlait depuis plusieurs années. Plus précisément depuis 2006, depuis l'affaire des caricatures de Mahomet publiée par le London Post, et que l'on a été le seul journal en dehors de France Soir à publier. On les a publiés d'ailleurs, je reviens sur l'histoire de ces caricatures. Quand le Yellen Poston a été menacé, les journalistes du Yellen Poston ont été menacés de mort pour avoir publié ces caricatures. Le journal France Soir, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui était un journal historique, hein, un grand titre de presse français, a publié en soutien du Yellen Poston les 12 caricatures qui posaient un problème. Le lendemain, le rédacteur en chef du journal a été licencié par le directeur de la publication. C'est pour cette raison-là qu'on a publié les caricatures de Mahomet, pour soutenir le Yellen Poston, évidemment, parce que en démocratie, on ne menace pas les gens de mort, ça, c'est pas possible, à plus forte raison quand c'est des journalistes. Au pire, on va devant les tribunaux, mais on ne leur tire pas dessus. Donc c'est pour cette raison qu'on a publié les caricatures de Mahomet, et on les a publiées avec un appareil critique, c'est-à-dire avec ce qu'on en pensait, pourquoi on les avait publiées. On a publié nos propres caricatures sur ce problème-là, sur la question du blasphème, et évidemment la fameuse couverture de Cabu, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Et curieusement, il y a eu, alors évidemment, la plupart des titres de la presse française ont dit oui, c'est très bien, vous avez eu raison de le faire, c'est très bien, mais personne d'autre l'a fait. Personne d'autre les a publiés, à une exception, l'Express, qui a été dirigé à l'époque par un monsieur qui s'appelait Jean Barre, je crois. Voilà. Et qui a eu des petits soucis par la suite avec le directeur du groupe auquel appartenait l'Express. Lequel directeur s'appelle Marcel s'appelait Dassault et marchand d'armes. Voilà. Et donc bon, voilà, là on rentre dans un autre discours, disons. Voilà. Mais voilà, ça c'était pour la petite histoire. Voilà. Donc pour revenir au 7 janvier. On savait que ces problèmes-là étaient quelque chose de grave, d'important. On savait surtout que c'était une question politique. Vous m'avez dit que vous avez travaillé sur l'islamisme. On a affaire.
When the Danish cartoons crisis happened, I remember I was a young think tanker working on Islamism in Washington. And the first and still only political demonstration that I ever attended was a protest for Denmark. We were protesting Denmark's right to free speech, that Christopher Hitchens organized in Washington outside the Danish embassy in 2006. So I remember, I mean, it's interesting how cyclical these debates and crises are, but becoming more violent with every cycle.
Bien sûr. Et aujourd'hui, le débat sur la question de l'islamisme, sur la question politique de l'islamisme, est devenu, je dirais pas impossible, mais très difficile parce qu'il est hystérisé par toutes les parties. Il y a une instrumentalisation de cette pensée politique qu'est l'islamisme, qui fait que on ne peut pas en débattre sereinement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une idéologie politique. Point final. Qui s'appuie évidemment sur une religion, mais depuis quand une religion, dès lors qu'elle entend intervenir sur le terrain public, n'est pas quelque chose de politique?
Yeah, and this is one of the problems that, you know, not to jump too far ahead, but I think helped lead to our current political troubles, at least in the West, is by taking the issue off the table and saying, oh, you can't talk about that. You, of course, empower the far-right extremists and anti-Muslim bigotry, which is exactly what you're trying to prevent by saying that subject is off-limits. But, of course, when you name something off-limits, you just radicalize people further on all sides of the debate.
Oui, bien sûr. Il y a une espèce de... On a accepté, au fond, de se soumettre à la stratégie employée par l'islam politique, par les islamistes, qui est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été employée peut-être, enfin sans doute pas pour la première fois, mais en tout cas dans notre histoire récente, pour la première fois par l'ayatollah Khomeini après la révolution en Iran. Quand il a lancé la fatwa contre Khomeini, il l'a lancé non pas au nom des Iraniens ou au nom du peuple qu'il représentait, puisqu'il représentait, lui, il était le chef de l'État iranien. Il l'a lancé au nom de tous les musulmans du monde. La fatwa, elle ordonne à tous les musulmans du monde d'abattre de par tous les moyens Salman Rushdie. Il a théorisé le fait, un des principes de l'islam politique, qui est que tous les musulmans, ou tels qu'on définit comme tels, doivent allégeance à l'islam. C'est ce qu'on appelle la Oumma, la communauté musulmane. On s'est soumis à ça, sans se rendre compte que les premières victimes de ce concept, ce sont les musulmans eux-mêmes, ce sont ceux qu'on nomme comme les musulmans. Aujourd'hui, on en arrive à une situation où, si vous voyez un noir, vous dites c'est un noir, c'est un homme de couleur. Bon. Si vous voyez un asiatique, vous dites c'est un asiatique. Si vous voyez un indonésien, vous n'allez pas vous dire c'est un musulman, vous allez vous dire c'est un asiatique. L'asiatique Far East, mais asiatique. Si vous voyez un arabe, vous ne vous dites pas c'est un arabe, c'est un musulman. Cette identité politique est devenue, par cette espèce de tour de passe-passe politique, l'identité obligé, assigné de millions et de millions de personnes dans le monde qui n'ont jamais demandé une telle chose. Et on s'est soumis à ça. Et aujourd'hui, il est devenu totalement impossible de dissocier la critique légitime contre une religion, à plus forte raison une religion politique, et ce qui est le racisme. Les deux sont confondus. Quand on accuse Charlie Hebdo d'être un journal raciste, c'est évidemment totalement faux. On n'attaque pas le racisme, c'est s'attaquer à quelqu'un pour ce qu'il est. Nous, on s'attaque aux gens pour ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font. On s'attaque aux autorités religieuses, on s'attaque aux idées religieuses, on s'attaque à une idéologie. On s'attaque pas au brave type qui est dans la rue et qui fait, enfin voilà, qui a sa foi intime et ça ne regarde que lui. Charlie Hebdo est un journal laïque, profondément laïque. Ce qui veut dire que en fait, on fait la On a beaucoup de la majorité de nos collaborateurs, des gens qui travaillent à Charlie, sont athées. Mais il y a aussi des croyants, et c'est leur problème. Le principe de la laïcité, c'est de faire la différence entre la foi, qui est intime, et la religion, qui est autre chose. La religion, c'est une organisation. C'est une organisation de contrôle de la société. Alors ça peut être un contrôle social, dont on peut discuter évidemment, mais quand c'est un contrôle politique, ce qui est le cas aujourd'hui avec l'islamisme, et ce qui fut le cas pendant des siècles avec le catholicisme, là c'est autre chose. Là on a le droit, universel, de le critiquer, le moquer. Ça devient un parti. L'islam est un parti politique comme les autres, dès lors qu'il descend dans l'arène politique. Et le Coran n'est pas plus sacré que le petit livre rouge, dès lors qu'il cesse d'être un espèce de guide intime et qu'il devient un programme politique. La profession de foi des frères musulmans, qui est un parti politique, c'est l'islam est la solution, le Coran est notre constitution. Ça ne peut pas être plus clair. Et quand des partis politiques ailleurs dans le monde utilisent la Bible comme appui de loi terrestre, la Bible devient un programme politique. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on doit pouvoir. Ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir dire. Or on ne peut plus le dire parce que dans nos sociétés européennes, on a mélangé les discriminations que subissent certaines populations, notamment issues de l'immigration, mais pas uniquement. Les problèmes que l'on a aujourd'hui en Europe, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ce sont des Français, ce sont des Anglais, ils sont nés en Europe. Donc ce sont nos sociétés qui ont produit ça, et on ne peut pas dire de ces personnes et à ces personnes, attention, ce que vous faites n'est pas correct, vous trompez. On n'a pas le droit de leur dire vous vous trompez. Quand il s'agissait du terrorisme d'extrême gauche dans les années 70, quand on avait les Brigades Rouges, quand on avait la bande Abadère, on leur disait mais vous dites n'importe quoi. On pouvait effectivement se prendre une balle dans les jambes, mais on pouvait leur dire, et personne ne trouvait ça absurde et personne ne trouvait ça discriminant. Or aujourd'hui, vous dites à un islamiste tu dis n'importe quoi. Ce que tu me dis, c'est des conneries. Les lois que tu prétends faire respecter sont des lois de merde. Ah, discrimination. Non, ça n'a rien à voir. Mais on a accepté cette escroquerie qui est une escroquerie montée de toutes pièces d'ailleurs par les islamistes, qui consiste à dire vous n'avez pas de droits sociaux, réclamez des droits religieux. Or, un droit social n'est pas un droit religieux. Et un droit religieux n'est pas un droit social. L'histoire le montre et elle le montre tous les jours. La religion n'a jamais donné de droit à personne. Elle en a toujours retiré.
I think you've done, this is very fascinating, and you've done a great job of illustrating some of the differences between the French idea of free expression and free speech, and also separation between faith and the state, and the sort of Anglo-Saxon American view of it. And I'd like to read you something that came out the same year, not too long after the attack, in the New York Review of Books by a guy named Tim Parks, and he's very critical, and he wrote, when satire reinforces the state of mind it purports to undercut, polarizes prejudices, and provokes the very behavior it condemns, it has failed. And that he says that instead of what Charlie Hebdo does, satire should point towards positive change and encourage people to think in a more enlightened way. And what's your response to that view of satire?
D'abord, la satire a un but premier, déranger. Sinon, c'est pas de la satire. La satire, elle doit attirer l'œil, fixer la pensée. Elle doit éclairer. Elle doit éclairer en donnant en quelque sorte une gifle. C'est pas la satire, c'est pas un calembour, c'est pas des jeux de mots, c'est quelque chose de profondément politique. En France, en tout cas, la satire a toujours été politique. Et les premiers journaux satiriques datent de la Révolution française. C'était des petits feuillets qui étaient distribués dans la rue et c'était bourré de dessins parce qu'évidemment il n'y avait pas de photos. Penser que la satire doit être polie, correcte, respectueuse envers sa cible est un non-sens. Quand on fait une satire d'un homme politique, personne s'étonne qu'on le caricature, qu'on fasse ressortir ce qui le caractérise. C'est la même chose quand on parle d'un événement. C'est la même chose quand on parle d'un fait de société. La satire n'a pas à être respectueuse. La satire, elle doit être claire et nette sur son objet. Ce qui est évidemment pas toujours simple. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'images, mais très peu de gens, au fond, savent lire une image. Et surtout un dessin de presse. Un dessin de presse, c'est pas simplement un commentaire sur un fait d'actualité. C'est une mise en contexte, une mise en perspective et surtout un avis. Une satire n'est jamais objective. Un dessin de presse n'est pas objectif. C'est un éditorial. Laissons de côté les satires blasphématoires de Charlie Hebdo. Parlons par exemple d'un dessin qui a aussi beaucoup fait parler et qui a créé une politique, une énorme polémique. Le dessin sur le petit Aylan, ce petit réfugié syrien qui avait été, qu'on a retrouvé noyé sur une plage en Europe et dont la photo est devenue une photo iconique. Et le mot est important, iconique. D'un seul coup, des réfugiés syriens, y compris des enfants, il y en a des centaines par an qui s'échouent sur les plages d'Europe. Sauf qu'ils s'échouent à l'état de cadavres à demi dévorés par les crabes, à demi bouffés par les poissons gonflés. C'est pas du tout photogénique. Là, d'un seul coup, on a cette magnifique photo d'un petit enfant. C'est une très belle photo. Il est allongé. On voit évidemment pas son visage. Il est dans le sable. Il est très propre. Il montre effectivement une situation, mais il la montre symboliquement. C'est presque une image pieuse. D'un seul coup, on a pu avoir la représentation acceptable de quelque chose qui ne l'est pas. En faisant ce dessin, donc Rhys a fait un dessin où il a repris cette photo en y ajoutant un panneau avec le clown McDonald, hein, et avec ce commentaire si près du but. Qu'est-ce qu'il dit ce dessin ? Il dit que ces réfugiés, ces enfants, viennent mourir sur les plages européennes à la recherche de quelque chose qu'ils n'auront dans l'immense majorité jamais et que de toute façon on n'est pas prêt à leur donner. C'est ça que dit ce dessin. La seule chose qu'on a vue dans ce dessin, c'est « Ah, vous avez touché à une image pieuse. Vous avez désacralisé l'image du petit Thaïlan. » On n'a pas su lire cette image. C'est valable pour le dessin de presse, c'est valable pour les publicités dont on est inondé.
Even French audiences were outraged.
Alors, les lecteurs de Charlie Hebdo qui sont habitués à ce type de à lire du dessin de presse en permanence, oui, ils ont parfaitement compris. Sauf qu'aujourd'hui, depuis précisément le 7 janvier 2015, dès qu'on publie un dessin qui peut faire polémique, des millions de personnes dans le monde le commentent et généralement le commentent de travers, le détournent, en prennent qu'un morceau. En fait, en font ce qu'ils ont envie d'en faire et surtout ce qu'ils ont envie d'y voir. Et généralement, ce qu'ils ont envie d'y voir n'a aucun rapport avec ce qu'est réellement ce dessin.
What about there was one that got some press attention in the U.S. about the hurricane in Texas? Could you talk a little bit about that one and the context that was probably intended but maybe missed by a lot of American audiences?
Oui, mais enfin, ce qui est assez étonnant dans la manière dont effectivement les Américains ont pu, enfin sans doute pas tous les Américains, mais en tout cas ceux qui en ont parlé et qui ont fait mousser cette histoire, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout vu ce dessin. On parle clairement de nazis. Il n'y a que des drapeaux nazis. Il n'y a même pas un Stetson. Hein. C'est juste des drapeaux nazis noyés. On détourne, en fait. On mélange deux actualités. C'est quelque chose de très courant dans la satire. On fait référence aux événements de Charleston et on mélange ça avec les inondations au Texas. Il est évidemment pas question de se moquer ou de se réjouir des dizaines et des centaines de personnes qui se sont noyées au Texas. Ça n'a strictement rien à voir. On mélange deux événements pour en sortir un commentaire. Qui plus est, c'était une réponse à un autre malentendu tout à fait volontaire d'ailleurs de la part de ceux qui l'ont déclenché sur la couverture qui précédait cette de la semaine précédente où là on avait fait une couverture avec sur les attentats de Barcelone sur islam, religion de paix éternelle. Voilà, donc d'un seul coup, on se mettait du côté de l'extrême droite, qui effectivement considère que l'islam n'est pas une religion de paix, mais qui considère que le catholicisme l'est. Or, aucune religion n'est ni de paix ni de guerre. C'est ce qu'on en fait une religion. Donc avec cette couverture sur les nazis, d'un seul coup, on faisait un pied de nez en disant ah bon bah alors on est du côté des nazis, bon bah voilà, non, on n'est pas du côté des nazis. Et on n'a jamais été du côté des nazis. Enfin, c'est totalement absurde.
You have this sort of interesting experience now, and you know, from this is a question from another media professional: is in some ways your audience has to shape, or might inevitably shape, how your publication changes over time, because you're a business, and so now you've gone from having an audience that was smaller and understood who you were and what you were doing, and now you have a global audience that's paying attention now. So how is that going to change the way that you guys do satire? Has it? How are you? Obviously, you've thought about this already. So how are you thinking about this?
Oui, bien sûr, quelque part, on y pense, mais on peut pas changer ce qu'on est. On peut pas changer de nature. Sinon, on fait plus Charlie Hebdo. Et moi, ça fait 25. Je suis pas dessinateur, mais j'écris. Ça fait 25 ans que je travaille dans ce journal. Je me vois mal écrire ailleurs, je pourrais sans doute, mais voilà, ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de la manière dont j'écris. Donc, de la même manière que il était hors de question d'arrêter ce journal au lendemain du 7 janvier, il est hors de question de cesser d'être ce qu'on est. C'est le problème, évidemment, que posent aujourd'hui les nouvelles technologies, les nouveaux médias. Bien sûr, ce qu'on écrit à Paris peut être lu, déformé, interprété à l'autre bout du monde. Mais est-ce qu'il faut pour ça s'arrêter de faire du journalisme d'opinion ? Parce que si à chaque fois qu'on doit écrire ou dessiner ou publier quelque chose, on se dit ah oui mais il y a forcément peut-être que ça va choquer quelqu'un, ça choquera toujours quelqu'un. Évidemment que ça va choquer quelqu'un. Si vous écrivez si moi j'écris que la peine de mort c'est une barbarie, je vais choquer des millions d'Américains. Si je dis que Poutine est une tête de nœud, je vais faire pleurer sa mère. On donne que le bulletin météo.
Well, and this is what I want, something I think for our listeners especially, is a lot of Americans might assume that Charlie Hebdo is this Islam-obsessed publication, but of course, you know, there's probably been more covers that have made fun of Christian, you know, religious Christianity, political Christianity than anything else, I would imagine, over time. And I was reading that the predecessor publication to Charlie Hebdo was shut down for making fun of De Gaulle after he died. Was that right? Of De Gaulle.
Oui, en fait, c'est une des éléments fondateurs aussi de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que Charlie Hebdo ne s'est pas toujours appelé Charlie Hebdo. Ça s'appelait l'Hebdo Harakiri parce que c'était la version hebdomadaire d'un mensuel qui s'appelait Harakiri. Et qui était publié dans les années 60 par Cavana voilà avec une partie de l'équipe qui était toujours en tout cas jusqu'au 7 janvier qui était toujours présente, Cabu, Volinsky, Willem, voilà c'était des dessinateurs de l'époque. Quand De Gaulle est mort, il y a eu une couverture sans dessin qui disait « Balle tragique à Colombey, un mort ». Non, pas « bullet », balle, un balle, dance. Dancing. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait eu deux, trois faits divers où des discothèques avaient brûlé. Et les grands titres de la presse, qu'on voyait assez finalement, qu'on avait vu plusieurs fois, c'était « balle tragique ». Donc voilà, balle tragique à Colombey, Colombey étant la résidence du général de Gaulle, Colombey les deux églises. Voilà, balle tragique à Colombey, un mort. Le journal a été effectivement interdit à l'affichage. Ce qui fait qu'il a changé de nom. Il a changé de nom et c'est devenu Charlie Hebdo pour pouvoir continuer à être publié la semaine suivante. Charlie Hebdo, non pas à cause de Charles de Gaulle, pas du tout, simplement parce que le même éditeur avait publié également un mensuel qui s'appelait Charlie Mensuel. Et ça s'appelait Charlie Mensuel parce que ça a été le premier journal de bande dessinée en France à publier Peanuts, Charlie Brown. Voilà. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Charles de Gaulle.
The American connection, I didn't know. So how much, I don't want to go into too much detail, obviously, for obvious reasons, on specific security measures, but how much has the day-to-day life of yourself and your staff changed since the attacks in January 2015?
Il y a une partie de l'équipe, dont moi, qui vit avec une protection. Voilà, effectivement, ça change la vie. Après, quelque part, je dirais, paradoxalement, c'est presque rassurant parce que ça veut dire qu'on est malgré tout ce qu'on dit sur les institutions françaises, elles fonctionnent toujours et on est toujours en démocratie. Parce que qu'un journal comme Charlie Hebdo, avec son histoire, avec ce qu'il écrit toujours, avec ce qu'il publie, soit protégé par la police, ça veut dire qu'on est en démocratie. Et puis voilà. Et puis il y a les locaux sont évidemment protégés. C'est une fois qu'on est dedans, on est au bureau. Hein. Voilà. La vie quotidienne, elle est celle d'un journal finalement, telle qu'elle était avant le 7 janvier. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, oui, elle l'est. Elle est redevenue. Telle qu'elle était avant le 7 janvier. Ça a été long, mais maintenant, on peut dire que c'est. Tout n'est pas rentré dans l'ordre, c'est pas ce que je veux dire, mais simplement il y a moins de pesanteur, le traumatisme est moins présent.
There was obviously a global outpouring of support, Je suis Charlie and all that. Do you feel like that was too much of a flash in the pan, or do you think it led to a real durable permanent change in perceptions and how we talk about these things?
Il y a des deux. Il y a effectivement le côté, ce qu'a produit le traumatisme du 7 janvier au sein des sociétés démocratiques. Donc, d'un seul coup, il y a des millions de personnes dans le monde qui ont eu envie d'afficher ce mot « Je suis Charlie », sans du tout savoir. Ce que ça pouvait vouloir dire, ni ce qu'était Charlie, puisque l'immense majorité d'entre eux n'en avaient jamais entendu parler, ce journal. Et puis, ça a peut-être à force, parce que en étant devenu un sujet d'actualité, on nous a remis des prix. On a un petit peu bougé à travers le monde. Pour expliquer justement ce que c'est que Charlie Hebdo, quand je suis venu à New York avec Jean-Baptiste Torret, on a passé beaucoup de temps dans les médias à expliquer justement quel type de journal on était, quel discours on tenait, pour lever précisément ce malentendu. Notamment qui a été lancé par les écrivains du Pen Club qui ont refusé de s'associer en disant que Charlie Hebdo était un journal raciste. Des écrivains qui, soit dit en passant, aucun d'entre eux ne lisant le français et n'ayant jamais ouvert une seule fois Charlie Hebdo. Voilà, que Salman Rushdie a traité de poussiste d'ailleurs, mais bon. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais juste revenir un petit peu à ce dont on parlait. Salman Rushdie a dit récemment dans un entretien qu'il a donné à l'Express, et c'est quelque chose dont moi je suis. J'ai le sentiment et dont j'étais convaincu, je suis convaincu depuis des années, c'est que si aujourd'hui il écrivait les versets sataniques, personne ne le soutiendrait. il n'aurait pas aujourd'hui le même soutien pratiquement unanime qu'il a eu à l'époque.
Why do you think that is? Why do you think that our sort of popular culture, conventional wisdom, sensitivities have moved in that direction since the Satanic Verses episode?
Je pense que d'une part, la propagande politique de l'islamisme y est pour beaucoup, parce qu'elle est très active dans les sociétés démocratiques, d'une manière totalement différente d'ailleurs que qu'elle l'est dans les sociétés où elle détient le pouvoir. Elle s'appuie évidemment sur, comme on le disait, des discriminations sociales et une confusion chez beaucoup d'intellectuels, notamment d'intellectuels de gauche, qui ont trouvé chez les musulmans en quelque sorte les nouveaux damnés de la terre, le nouveau prolétariat qu'ils ont perdu. Donc il y a cet aspect là, il y a cet aspect intellectuel, on va dire, et purement politique. Et puis il y a tout simplement le racket terroriste qui fonctionne malheureusement. Il y a la peur que parfois on baptise respect, mais on rebaptise respect. Au lieu de dire les islamistes me font peur, on dit je respecte les musulmans. Voilà. Je pense que c'est une erreur parce que se soumettre à un racket, ça n'est jamais la meilleure façon de le stopper. Dès lors qu'on cède à la violence, on dit à ceux qui utilisent la violence, vous avez raison de le faire, puisque ça marche. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est un mélange de ces deux facteurs. Un facteur intellectuel, politique, cette confusion qui a gagné toutes nos sociétés occidentales, avec aussi une sorte de culpabilité sans doute. En France, c'est le cas. Culpabilité postcoloniale, tout un mélange de choses mal digérées dans notre histoire. Ce qui est le cas sans doute aussi d'ailleurs pour une certaine extrême gauche aux États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense, avec les affaires des statues qu'on veut absolument déboulonner, ça a aussi à voir avec ça. Je pense avec une culpabilité là en l'occurrence par rapport à l'esclavage, par rapport à la ségrégation raciale et voilà, qui n'est toujours pas réglée. Donc c'est ce mélange de tout ça et de la peur du terrorisme tout simplement qui fait que voilà aujourd'hui Salman Rushdie on le traiterait de raciste et d'islamophobe.
Yeah, that's the word now. The one last thing I have to ask is satire, I guess more of a statement that I'd like you to react to. Satire in the age of Donald Trump.
Satire et Donald Trump, c'est un peu un pléonasme. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est très dur. Au fond, il est très dur à dessiner parce que c'est déjà une caricature. Qu'est-ce qu'on rajoute au fond? Quel est le trait que l'on fait ressortir? Qu'est-ce qu'on va apprendre finalement au lecteur? Très difficile. Il y a rien à apprendre au lecteur ou au citoyen de Donald Trump, parce que tout est évident. Il est lui-même, il fait sa propre satire en permanence. Vous lisez ses tweets, c'est des brefs de comptoir. Qu'est-ce qu'on peut écrire de plus drôle qu'un tweet de Trump?
Thank you so much for your time. This is really wonderful.
You're welcome.
Thank you for listening to the War on the Rocks podcast. Do not forget to check out our written content at waronthrocks.com and our membership program at waronthrocks.com/subscribe. And please, please take a moment to rate us on iTunes. 5 stars, of course. It really does make a difference.